Métaphysique, Père Philippe, 17 novembre 1982, Rimont.
À ce que représente, si vous voulez, le renouveau devant lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a un renouveau aujourd'hui, qu'on ressent partout du reste. Vous voyez, les nouveaux philosophes, c'est un essai de renouveau. Ils ont compris qu'il fallait essayer de reprendre quelque chose. Et c'est pas si commode que ça, de reprendre profondément au-delà des ornières. Alors il y a une grande ornière, et je voudrais que vous saisissiez bien ce primat de la négation. On le saisirait parfaitement qu'en critique. Ils ne vont pas le faire maintenant, hein. Ça nous conduirait trop loin. Mais il faut au moins y réfléchir. Donc, vous nous disiez que le primat de la négation provenait de l'exaltation du sujet. Ne pourrait-on pas voir son origine dans le scepticisme ? L'homme cherche naturellement un certain absolu, une vérité, et ne la trouvant pas dans le réel, chaotique, en devenir, contingent, il se renferme dans la position diamétralement opposée, celle d'un absolu négatif. De tout nier. C'est sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais vous voyez, le scepticisme, c'est vrai, c'est très juste de voir ça. Mais voir que le scepticisme a été l'occasion de découvrir où est l'absolu. Alors, on découvre l'absolu dans le primat du sujet, dans la subjectivité transcendantale. Il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire, cette subjectivité transcendantale. Parce qu'elle est cachée en chacun d'entre nous, hein. Il faut bien comprendre. En chacun d'entre vous, il y a une subjectivité transcendantale. Mais comprenez bien que cette subjectivité transcendantale n'est pas le réel. C'est vous qui fabriquez ça. Enfin, c'est cette espèce d'exaltation. Moi, j'avais mis l'orgueil parce que je crois que le côté affectif de l'orgueil est très fort. Derrière le scepticisme, c'est très vrai qu'on est déçu devant la relativité de toute chose et on cherche un absolu. Et l'orgueil nous fait bien comprendre ce désir de l'homme mesure de toute chose. Et dans la subjectivité transcendantale, c'est l'homme mesure de toute chose. Donc, je suis d'accord, c'est très juste de dire ça. Le philosophe, à la suite d'Aristote, distingue l'action de la contemplation. Mais alors, quel est cet homme pratique pour lequel est faite la contemplation? Oui, je vous avais dit, ça c'est du reste plus, ça regarde plus l'éthique qu'ici, mais ça regarde les deux, c'est la distinction entre la connaissance spéculative et la connaissance pratique. C'est sûrement très important de bien saisir cette distinction entre le point de vue spéculatif et le point de vue pratique. De comprendre que le point de vue spéculatif est quelque chose de plus radical et de plus profond en nous que le point de vue pratique. Le point de vue pratique, c'est ce que nous pouvons saisir directement dans notre vie habituelle. Nous sommes naturellement des êtres actifs. Nous sommes divinement des êtres contemplatifs. Et le divin en nous est plus lointain que ce qui est naturel. Le divin reste naturel en nous, hein. Nous sommes naturellement des êtres contemplatifs. Mais j'allais dire, nous le sommes dans la mesure où nous avons compris qu'il y a en nous quelque chose de plus profond que l'action. Que l'action présuppose la connaissance. Toute véritable action présuppose un acte de prudence et donc de connaissance pratique. Et que la connaissance n'est parfaitement elle-même que dans la contemplation. Alors voyez comment la connaissance pratique conduit normalement à la contemplation. Ça conduit normalement à la contemplation si nous sommes, je dirais tout simplement, respectueux de ce que représente la connaissance pratique qui est en nous. Un acte prudentiel conduit à la sagesse. Un acte prudentiel conduit à la sagesse, conduit à la contemplation. Est-il pratique en ce sens qu'il est notre finalité ? Ou bien, se reposant dans la contemplation, reste-t-il toujours actif? Oui, je vois comment cette question. Comment le pratique, peut-être pratique au niveau prudentiel, et comment le pratique peut être éminemment pratique dans la contemplation? Oui, je crois que c'est ça qui est soulevé comme question. Le point de vue pratique habituel, c'est l'action prudentielle, et puis l'action du facere. Écouter un cours, ça peut être une action prudentielle. J'écoute ce cours parce que je veux obéir au règlement. Alors je vais être présent, mais pas plus. Je suis présent, je gratte, je fais semblant de très bien écouter. Mais je ne cherche pas du tout à convertir mon intelligence. Nous avons tous à convertir notre intelligence. Tous, moi-même. Croyez bien que je l'ai fait et je continue de le faire. Je cherche la vérité. Et nous cherchons tous la vérité. Alors si vous cherchez, si vous assistez à un cours uniquement d'une action prudentielle, en disant j'assiste au cours parce que c'est le règlement. J'assiste au cours, règlement. Alors je suis là. Je gratte. Je fais du facere, comme ça. J'ai l'air d'être très docile. On ne peut pas me prendre en flagrant délit de faire n'importe quoi. Je gratte. Est-ce que c'est suivre un cours, ça, non? Parce que le cours, c'est bien la connaissance pratique pour le professeur. Ça, c'est évident. Pour le professeur, il est actif. C'est pour ça qu'il n'a pas froid. Parce qu'il est actif, n'est-ce pas? Tandis que celui qui écoute, il doit écouter d'une manière contemplative. Un cours de philosophie doit nous conduire à la connaissance spéculative, à la contemplation. Parce que c'est la recherche de la vérité. Alors c'est la connaissance spéculative. Mais je peux très bien écouter un cours uniquement comme une action prudentielle. Obéissance, hein? Oui. L'obéissance n'est pas la contemplation. Un âne peut obéir. Il obéit à coup de bâton. Il suit le règlement. Alors, il obéit. Mais il ne sera jamais contemplatif. Sauf la naisse de Valar. N'est-ce pas? Alors, à ce moment-là, il est mu par Dieu et tout d'un coup, il y a quelque chose. Mais vous comprenez bien que l'obéissance, hein? L'obéissance, bon, c'est très bien, il la faut, et nous le verrons que c'est nécessaire. Mais l'obéissance exige une action prudentielle. Et l'action prudentielle consiste à comprendre qu'écouter un cours, c'est de chercher la vérité. Je peux vous conduire, mais c'est vous qui découvrez la vérité. C'est votre acte le plus personnel qui soit de découvrir la vérité. Alors, si on n'est pas d'accord avec le professeur, on se dit pourquoi? On est intelligent, on se dit pourquoi? On cherche pourquoi on n'est pas d'accord. Si on est d'accord, très bien, on entre. Il y a deux manières, et c'est comme ça qu'on doit suivre un cours. Parce que je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, c'est pas ça la vérité. C'est pas d'être d'accord avec le professeur. Chercher la vérité, c'est vraiment chercher la vérité, et vous posez toujours la question... C'est ça que je veux. Je veux contempler. Il n'y a pas de contemplation sans recherche de vérité. Impossible. Il n'y a pas de contemplation sans recherche de la vérité. Parce que la contemplation, c'est contempler une personne. La réalité plénière, pour nous, c'est une personne. Et c'est pour ça qu'il faut la recherche de la vérité pour la contemplation. Et si vous ne recherchez pas cette contemplation et cette recherche de la vérité, alors à ce moment-là, votre action n'est pas prudentielle et votre obéissance devient une obéissance d'abruti. Parce qu'elle est coupée de l'action prudentielle. C'est difficile d'obéir vraiment parce qu'il faut être prudent. Tout acte d'obéissance implique une prudence. Et tout acte de prudence s'ouvre à la contemplation. C'est ça qu'il faut bien saisir. Tout acte de prudence. Alors certains, d'une manière éminente, hein, suivre un cours de métaphysique, Suivre un cours de métaphysique, c'est la recherche de la vérité. Et cette recherche de la vérité, elle doit être pour chacun d'entre vous. Alors au début, évidemment, on court à quatre pattes, hein, la recherche de la vérité, bigre, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Et j'essaie de comprendre. Alors on dit, bon, bien, je vais écouter d'abord. Hein. C'est vrai, il y a tout un langage philosophique qu'il faut apprendre. Il y a tout un langage philosophique. Et chaque professeur de philosophie a nécessairement son langage. Heureusement, parce que comme ça, même si on a déjà fait de la métaphysique, on suit une métaphysique d'un autre professeur de philosophie, on peut tout apprendre. Celui qui dit, j'ai déjà fait un cours de métaphysique, c'est plus la peine de suivre mon cours de métaphysique. Je dis, ça prouve que vous n'avez rien compris. Parce que si vous avez fait de la métaphysique, vous cherchez la vérité. Vous cherchez la contemplation. Et nous avons toujours tout à apprendre. Nous avons toujours tout à refaire. Vous voyez, c'est ça qui est important. Et là, on saisit toujours. On se trahit tout de suite. Vous voyez, comme quelqu'un qui dit, j'ai suivi un cours de métaphysique, donc je n'ai plus besoin de faire de la métaphysique. Il se trahit, celui-là. Ça prouve qu'il a fait uniquement un acte d'obéissance. Il a le règlement. Il a suivi pendant 2 ans de la métaphysique. Et il croit que c'est terminé. Vous voyez, il n'y a pas eu un acte prudentiel. Il a suivi uniquement pour passer des examens. Il a passé ses examens avec de bonnes notes. Parce que le professeur était miséricordieux. Alors il a eu de bonnes notes. Hein. C'est extraordinaire. Alors il croit qu'il a terminé, mais pas du tout. Il n'a encore rien fait, puisqu'il n'a pas ouvert son intelligence à la vérité. On peut suivre 2 ans de métaphysique dans l'obéissance, en passant des examens. Sans ouvrir notre intelligence à la vérité. Et notre intelligence doit s'ouvrir à la vérité. C'est absolument nécessaire, c'est ça la philosophie, c'est ouvrir notre intelligence à la vérité. À la vérité qui est la recherche de la contemplation. Parce que la vérité, c'est en vue de la contemplation. Alors, la question est celle-là. Cette recherche de la vérité est spéculative parce que nous cherchons la vérité pour la vérité, c'est très vrai. Mais cette recherche de la vérité aboutit à la contemplation. Et la contemplation, elle est éminemment pratique. Quand je dis éminemment pratique, ça ne veut pas dire du tout que je transforme la personne que je contemple. Ça veut dire que je suis transformé par elle. Et c'est vrai que je suis transformé par elle. Et donc c'est éminemment pratique. L'acte de contemplation est un acte éminemment pratique, éminemment vital, comme toute action pratique, comme toute action prudentielle. Alors, ayez toujours un tout petit peu, essayez de faire un jugement de conscience, de vérité. Hein. Ce serait très beau de savoir, je suis mon cours de philosophie pour moi, je dis de l'obéissance. C'est vrai, il faut l'obéissance. Mais il faut qu'une obéissance intelligente, action prudentielle. Et cette action prudentielle nous ouvre vers la vérité. Vous voyez, il y a 3 demeures. Hein. Dans ceux qui suivent le cours, il y a 3 demeures. Je ne dis pas au premier rang, au deuxième rang, non, je ne dis pas ça. Heureusement, si je pouvais mesurer, n'est-ce pas, la manière dont vous suivez le cours, je dirais, bon, il y en a qui suivent obéissance, matériellement présent. Il y en a... Oui, c'est vrai, la métaphysique c'est important, c'est très important. L'Église nous le demande. L'Église, c'est vrai, l'Église nous le demande. L'Église demande que nous fassions de la métaphysique. Parce que l'Église, en sa maternité profonde, veut que nous soyons intelligents. Elle veut que les chrétiens soient intelligents. Si les chrétiens étaient plus intelligents, ils seraient davantage témoins de la vérité. Ils iraient plus loin. Et donc, il faut que notre intelligence s'ouvre à la vérité. Et il faut qu'en s'ouvrant à la vérité, nous comprenions cette contemplation. Donc vous voyez, ce caractère éminemment pratique de la contemplation. C'est pour ça qu'on fait la distinction entre spéculatif et pratique. Faisons attention, hein. Cette distinction entre spéculatif et pratique, c'est le contenu de la connaissance. C'est pas la finalité. C'est le contenu. C'est aussi la finalité d'une certaine manière, puisque cette connaissance recherche l'action, où cette connaissance recherche la vérité. C'est le contenu. Mais si je regarde l'homme qui contemple, il faut toujours aboutir à l'homme au point de vue philosophique. Si je regarde l'homme qui contemple, c'est ce qu'il y a en lui de plus profondément pratique. C'est pour ça que le traité de la contemplation est dans l'éthique et pas dans la métaphysique. Parce que la contemplation exprime ce qu'il y a de plus vital dans l'homme. Ce qu'il y a de plus vital. Je suis un grand vivant quand je contemple. Je suis un moindre vivant quand je suis prudent. Et je suis très peu vivant quand j'obéis matériellement. Quand j'obéis au règlement. Pour le règlement. Uniquement. Pas me faire prendre par le gendarme. Oui. Et je n'ai pas l'esprit. Et je n'entre pas dans l'esprit. On entre dans l'esprit par la prudence et par la recherche de la vérité. Vous voyez les trois demeures, hein ? Alors mettez-vous où vous devez être, hein ? À chaque cours, il faudrait voir répéter ça. Alors, comme maintenant, on maintiendrait l'attention vers la contemplation. Alors, vous voyez bien, c'est l'homme contemplatif qui est éminemment pratique. C'est l'homme contemplatif. Et la connaissance contemplative, si je réduplique, si je réfléchis sur la connaissance contemplative, elle est spéculative, parce qu'elle recherche la vérité. Elle ne recherche pas l'action. Sans revenir sur les distinctions elles-mêmes qu'il nous faut nous-mêmes assimiler, c'est très vrai, pouvez-vous montrer plus clairement l'usage pratique de ces deux distinctions d'Aristote, ordre pratique, spéculatif, ordre génétique de perfection ? Quelle est leur combinaison en elle ? Alors oui, il faut bien distinguer, c'est assez facile à comprendre, la distinction de l'ordre génétique et de l'ordre de perfection. C'est une distinction qui se fait dans l'analyse. C'est-à-dire que je réfléchis sur le devenir de ma connaissance. Nous devenons progressivement intelligents. Nous devenons, chacun d'entre nous, nous devenons progressivement intelligents. Et nous pouvons aller toujours plus loin dans ce progrès de la connaissance. Nous devenons intelligents. Devenir intelligent fait que nécessairement au point de départ, on ne l'est pas énormément. Donc on est imparfait. Au terme, on tendra vers la perfection. Alors c'est pour ça que parce qu'il y a un devenir, tout devenir implique une distinction entre le cheminement du devenir qui passe de l'imparfait vers le parfait et ce devenir en même temps, il est. Du fait même qu'il est, la finalité est présente à chaque moment. C'est pour ça que je peux, à chaque instant, faire la distinction entre l'ordre du devenir et l'ordre de perfection. Je ne sais pas si vous saisissez bien, mais vous pourriez le faire, par exemple, ici pour la contemplation. Contempler, c'est aboutir à la finalité. Ma finalité, c'est de contempler. C'est de rechercher la vérité. Au point de vue philosophique, c'est ça. Je suis un vrai philosophe quand je contemple. C'est pour ça que la philosophie, quand elle se coupe de la contemplation, elle n'est plus une vraie philosophie. Tout simplement, c'est plus une vraie philosophie. Parce qu'elle n'est plus cette recherche profonde de la vérité. Elle recherche à connaître tel ou tel système, système de savoir ce qu'a dit tel ou tel philosophe. C'est très bien, c'est de l'érudition. L'érudition n'est pas la recherche de la vérité. Ça peut aider la recherche de la vérité, mais ce n'est pas la recherche de la vérité. La recherche de la vérité, c'est ce contact constant de l'homme avec la réalité. Alors ce contact constant de l'homme avec la réalité, avec ce que représente la personne humaine, fait qu'il y a en moi cette finalité. Donc la contemplation me fait comprendre l'ordre de finalité, l'ordre de perfection. Mais avant d'entrer dans la contemplation, il faut du temps. Il faut des maîtres vivants et des maîtres morts. Ce que dit Topfer. Hein? Il faut des maîtres vivants et des maîtres morts. Des maîtres vivants, ben oui, nous suivons des cours. Nous suivons des cours et c'est très bien, nous suivons des cours pour nous aider. Des maîtres vivants, ça nous aide parce qu'on peut les interroger. Des maîtres morts, c'est l'inconvénient qu'on ne les interroge pas. C'est difficile, hein, sonner l'aise, pouvoir interroger Aristote. Si on avait une possibilité de l'interroger, interroger Platon, ça aurait été intéressant, vous voyez. Aujourd'hui, vous aurez un cours par Platon. C'est extraordinaire, hein, ce serait merveilleux. Ou un cours d'Aristote. Vous ne comprendrez rien du tout. Mais ça fait rien. Ce sera un cours d'Aristote, au moins. Ce sera quelque chose de bien. Ce sont des maîtres morts. On a leurs ouvrages. Alors on les lit. Il faut les lire. On opte pour des maîtres. Et ça, très vite, il faut opter pour des maîtres. Il faut opter. Il faut opter pour ceux qui nous formeront. Ceux qui nous conduiront à la vérité. Alors, si nous sommes chrétiens, l'Église nous oriente. Elle nous oriente avec beaucoup de miséricorde et d'amour, mais l'Église nous oriente. L'Église nous dit, n'ayez aucun mépris pour saint Thomas. Elle nous dit ça. Donc, si vous avez un mépris pour saint Thomas, vous n'êtes pas entièrement catholique. Ah, vous pouvez dire, saint Thomas c'est trop fort, c'est pas pour moi. Ah, un petit acte d'humilité, c'est très très bien. Alors vous dites, c'est trop fort, c'est pas pour moi. Non, c'est impossible, c'est trop difficile saint Thomas. J'aime mieux saint Augustin parce que c'est moins précis. Hier je faisais passer un examen à un étudiant qui est très augustinien. Alors j'ai demandé la différence entre saint Augustin, j'ai exprès interrogé sur saint Thomas, vous comprenez bien. Parce que c'était, je savais très bien qu'il était toujours mon saint Augustin. Alors j'ai interrogé sur saint Thomas. Alors il a avoué, j'aime beaucoup mieux saint Augustin parce que c'est moins précis. Alors je lui dis, ça vous permet d'être plus vague. Exactement. Tandis que saint Thomas, c'est difficile parce que c'est précis. Et c'est vrai, c'est très précis, c'est difficile. Tandis que saint Augustin, il y a beaucoup de rhétorique. C'est très beau, c'est magnifique, il faut aimer beaucoup saint Augustin. On ne doit pas le mépriser, on doit l'aimer beaucoup. Mais saint Thomas, il est petit-fils de saint Augustin. Et donc il nous donne une intelligence de saint Augustin merveilleuse. On précise. Alors, on doit choisir ses maîtres. Si vous choisissez saint Augustin, très bien. Si vous choisissez saint Thomas, très bien. Mais soyez docile à ses maîtres. Une docilité. Ne vous mettez pas trop vite au-dessus de ses maîtres. Parce que je ne sais pas si dans 2000 ans, on parlera encore de vous. Tandis que d'Aristote, de saint Augustin, de saint Thomas, on parle encore d'eux. On parle encore d'eux auprès de Milan. Ce sont des cathédrales qui demeurent, tandis que nous sommes petites maisons. On n'est pas encore arrivé. Alors on a besoin d'un sycomore. C'est évident, on a besoin d'un sycomore pour aller plus vite, pour aller plus loin. Alors on se met sur eux, on cède d'eux. C'est ça les maîtres, c'est céder des maîtres. L'autorité du maître, c'est pas du tout s'imposer. C'est nous donner un tremplin. Alors ça nous permet d'aller plus loin. Et c'est ça qu'on doit faire. Alors il faut avoir l'autorité des maîtres vivants et des maîtres morts pour pouvoir aller plus loin, pour comprendre ces distinctions, ordre génétique, ordre de perfection, ordre pratique, ordre spéculatif. Vous voyez, alors vous y arriverez petit à petit. Hein. Je ne vous demande pas d'y arriver immédiatement. Alors, on pose ici la petite question qui est un peu différente. À propos du rire, quelle est sa place dans la vie de l'homme? C'est intéressant. Le rire est le propre de l'homme. Il y a deux sur le rire, je ne crois pas qu'ils se sont consultés. Le rire est le propre de l'homme, mais non celui de l'homme nouveau. Quelle place peut-il avoir dans notre vie de consacré? Quel est-il exactement de l'homme nouveau, c'est-à-dire du Fils de Dieu? Je crois qu'il y a beaucoup d'humour dans l'homme nouveau, n'est-ce pas? Dans l'homme nouveau qui est le Fils de Dieu. Alors comprenez bien, le propre de l'homme, c'est vrai, le propre de l'homme, c'est de sourire. C'est de rire. Pourquoi? C'est la capacité de découvrir une certaine brisure dans un autre. Et quand vous voyez quelqu'un de très respectable, il a un sens extraordinaire de sa dignité. Et il est très respectable. Il a un sens de sa dignité. Puis tout d'un coup, parce qu'il n'a pas vu qu'il y avait du verglas, et puis des gringoles. Alors, ça fait rire. Parce que la dignité s'effondre. Alors, la dignité, quand elle s'effondre, ça fait rire. C'est impossible autrement. Il y a un contraste. Et c'est pour ça qu'on dit que le rire est le propre de l'homme, parce que c'est la manifestation de l'intelligence. Celui qui ne rit jamais, on ne sait pas s'il dort, on ne sait pas s'il est intelligent, on ne sait pas s'il comprend. Et celui qui ne sourit jamais, non, en dehors. Et le sourire et le rire est quelque chose de naturel. C'est beaucoup plus difficile de falsifier le sourire que de falsifier la parole. On peut très bien bien parler et mal penser. C'est plus difficile de bien rire en connaissant mal ou en aimant mal. C'est très curieux. Le sourire est quelque chose de plus naturel que la parole. On ne dit jamais que le rire est un signe conventionnel, tandis que la parole est un signe conventionnel. Si c'est un signe conventionnel, il y a toute une culture qui passe à travers. Tandis que le rire, c'est quelque chose qui demeure. On voit très bien un sourire forcé. Ça se voit tout de suite. Si on est très habitué, on voit bien une parole rhétorique. Un beau discours. Alors on a envie de dire, eh bien oui, quand tu parleras autrement, je t'écouterai. N'est-ce pas? Parce que c'est fatigant, une parole purement rhétorique, où il n'y a rien derrière. Tandis que le sourire est quelque chose de plus naturel. Alors, l'homme nouveau, vous comprenez bien, le Christ, la grâce ne détruit pas la nature. La grâce ne détruit pas l'intelligence. C'est pas parce qu'on est croyant qu'on devient bête. C'est pas parce qu'on est croyant qu'on devient intelligent. Mais Dieu nous demande de cultiver notre intelligence. Et donc la grâce ne supprime pas du tout cette capacité que nous avons de sourire. Elle ne supprime pas du tout. Elle nous permet d'avoir un regard plus intérieur et donc peut-être de sourire pour des choses plus profondes. Le sourire du Christ sur la croix. C'est la présence de Marie tout proche de la croix. Vous voyez, c'est un sourire d'amour. Il y a un sourire profond dans l'amour qui montre la victoire de l'amour sur la souffrance. Alors, je crois que ça, c'est le sourire de l'homme nouveau. C'est ceux qui ont été à l'Éreins connaissent le Christ qui sourit du haut de la croix. Et c'est très beau. Ça, c'est le 12e siècle. C'est le 12e siècle qui montre le sourire du Christ. Le 14e siècle montrera Jésus dramatique. Et le 12e siècle montre le triomphe de l'amour sur la croix. C'est le sourire. Vous voyez, on a tous vu des êtres que nous aimons et qui souffrent. Et parce qu'on était là, présents, ils nous ont souri. Il y a eu un dépassement de la souffrance dans un amour victorieux par la présence. C'est très curieux, hein? Le sourire de l'homme nouveau, le sourire du Fils de Dieu qui est en nous, c'est la victoire de l'amour sur la souffrance. Alors c'est le sourire pour manifester la présence. Vous voyez, ça revient comme le sourire de l'enfant. Un sourire d'enfant, c'est très extraordinaire. Parce que celui-là n'est pas falsifié du tout. Il est très extraordinaire. Et vous n'avez jamais vu le sourire d'un saint. Vous pouvez dire, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, ah, les singes parlent. Certains poissons parlent. Bon, très bien. Les dauphins, ça parle. Paraît-il, ça parle. Ça ne sourit pas. Vous avez vu un dauphin sourire? Je vous affirme, hein, ça fait quelque chose d'assez particulier. C'est extraordinaire. L'animal ne sourit pas. Et je crois que c'est important dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'on est en train de montrer, voyez, on est en train de montrer que l'animal peut parler, qu'il y a un code qui n'est pas le nôtre, c'est évident, mais un code. Alors, la dernière cartouche, hein, est-ce qu'il sourit? Laissez le code, ça n'a pas d'importance, aucune espèce d'importance. Et pourquoi? Ça, c'est très très joli. Parce qu'au fond, la parole peut être liée à l'instinct. Un code peut être lié à l'instinct. Alors l'animal, son instinct, il est peut-être très poussé, et peut-être en vue d'attraper une carotte. Quand l'animal fait une chose, c'est pour attraper un aliment. Il a compris qu'il était récompensé. Il était récompensé quand il faisait telle bêtise. Alors il l'a fait, il l'a répété. Et à ce moment-là, même s'il peut dire un son articulé, il le dit. C'est pas la parole, ça. C'est une parole pratique, liée à l'instinct. Le sourire n'est pas lié à l'aspect pratique. C'est le dépassement vers le point de vue spéculatif, vers le point de vue affectif. C'est le premier pas du spéculatif, le sourire. C'est pour ça que c'est là où on distingue le point de vue de l'intelligence. Vous comprenez, quand je suis dans l'intelligence pratique, c'est pas commode de distinguer avec l'instinct. Pas commode du tout. Parce que l'instinct dirige l'action. L'intelligence pratique dirige l'action. Et alors je peux faire une confusion entre les deux. Dire je vois pas de différence, surtout aujourd'hui, on mesure l'aspect purement matériel sans regarder la finalité. L'intelligence pratique a une finalité. L'instinct n'a pas une finalité au sens propre, si ce n'est la finalité de survie. C'est une finalité immanente. Mais ça, c'est impossible à découvrir de l'extérieur. Et c'est pour ça que le sourire, aujourd'hui, est très important pour nous, pour comprendre que l'intelligence n'est intelligence que quand elle est spéculative. Un homme qui a supprimé son intelligence spéculative, qui a supprimé sa contemplation, devient très vite un abruti. Dans l'ordre de l'efficacité. Alors, il devient un animal supérieur. Alors, le sourire, c'est le passage de l'intelligence, de la connaissance pratique vers la connaissance spéculative. Et parce que c'est l'intelligence liée à l'amour. C'est une intelligence liée à l'amour, le sourire. C'est en face d'une présence de quelqu'un, en face d'un ordre qui... C'est lié à l'amour. Or, c'est grâce à l'amour de la vérité, grâce à l'amour de la connaissance pour elle-même, que je passe de la connaissance pratique à la connaissance spéculative. Si vous supprimez l'amour, vous supprimez la recherche de la vérité. Et vous recherchez uniquement l'efficacité. Et quand vous recherchez que l'efficacité, l'intelligence pratique deviendra très vite uniquement instinctive. Il pourra encore y avoir un code. Oh oui, un code, ça pourra encore se faire. Il y aura quelque chose qui ne sera plus le sourire. Parce que le sourire conduit vers quelque chose qui dépasse l'ordre de l'efficacité. Quelqu'un qui est dans la pure efficacité ne sourit plus. Ça, c'est sûr, il est trop tendu. Il ne sourit plus, il n'a plus le temps de sourire. Il n'a plus le temps d'avoir suffisamment de recul. Et c'est justement ce sourire qui montre le passage d'une connaissance d'efficacité vers la connaissance affective et spéculative. Oui, c'est ça l'important, c'est pour ça que c'est le propre de l'homme. Et c'est vrai, c'est le propre de l'homme. Plus propre de l'homme que la parole. Alors, la parole, la vraie parole, non. La vraie parole. Mais vous voyez, quand aujourd'hui on essaie de ramener la parole à un code uniquement dans de l'efficacité, alors à ce moment c'est plus du tout propre de l'homme. Ça m'est égal de chercher que le singe parle. Ça m'est tout à fait indifférent. Parce que je sais qu'il ne contemplera jamais. Or, l'intelligence, c'est la contemplation. Et aujourd'hui, on a ramené l'intelligence à l'efficacité, on a ramené l'intelligence à un code, on a ramené uniquement cela. Alors à ce moment-là, évidemment, il n'y a plus beaucoup de... C'est difficile de chercher la différence entre l'instinct et un instinct très développé, un instinct qui peut se développer par la mémoire. Les animaux ont une mémoire, et donc ils peuvent avoir un code. Il n'y a pas de difficulté. C'est la mémoire qu'on voit aujourd'hui, mais la mémoire n'est pas l'intelligence. L'instinct peut mémoriser, en vue d'un point de vue pratique. Mais l'instinct lié à la mémoire n'est pas l'intelligence affective, aimante, qui permet le sourire, qui conduit à la contemplation. Je continue ce que nous avions commencé de voir. Mais c'est bon de réfléchir sur ces petites notes qui sont importantes à bien saisir. Nous avions donc commencé à voir que le point de départ de la philosophie première, c'est le jugement d'existence. Ce fameux jugement d'existence, ceci est. Je suis. Et je vous avais dit, et c'est très important de comprendre, que ce jugement d'existence, c'est l'au-delà de toutes mes expériences externes et internes. Quand j'aime, est impliqué je suis. Mais pas immédiatement. Tandis que quand je travaille, est impliqué immédiatement je suis. Vous voyez la différence entre l'expérience interne et l'expérience externe. Le « je suis » est lié directement à l'expérience externe. Et le « je suis » n'est pas immédiatement lié à l'expérience interne. C'est pour ça que Descartes dit « cogito ergo sum ». Il ne dit pas « cogito sum ». Il n'est pas si bête Descartes. Hein? Il sait bien. Et quand il dit « ergo », il met un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'est tout simplement de dire « cogito ». Oui, le cogito, c'est le fruit d'une substance pensante. Et c'est la substance pensante qui existe. Vous voyez comment il passe par un intermédiaire. C'est important pour comprendre que c'est justement nos expériences au sens fort qui impliquent les sens externes qui impliquent directement le jugement d'existence. Ce jugement d'existence a été faussé dans notre philosophie et dans notre théologie occidentale à partir du XIVe siècle. Occam. Il faut bien comprendre. Hein? Occam, c'est très intéressant parce que c'est la déviation qui s'est faite à ce moment-là. Et cette déviation est extrêmement profonde. L'Église a très bien compris que c'était très dangereux, Occam. Occam a été condamné. Mais vous savez bien qu'on n'est pas toujours très docile. Quelquefois, quand quelqu'un est condamné, on se précipite dessus avec encore plus d'amour, hein, parce que c'est le fruit défendu. Et alors, comme c'est le fruit défendu, on se précipite dessus. De fait, Occam a été condamné par l'Église d'Avignon, par un dominicain qui était au service de la curie, qui était Durand de Saint-Pourçain. Eh bien, de fait, il a condamné Occam. Tu vois, l'Église a condamné Occam. Et cependant, Occam a continué d'avoir une très grande influence sur la scolastique décadente. Et je dirais que Occam, c'est le père de la scolastique décadente, ou le grand-père. Et le père, c'était Suarez. Suarez a voulu dépasser Occam et revenir à saint Thomas. Il a d'excellentes intentions, c'est pour ça qu'il peut être béatifié. Mais il a d'excellentes intentions, mais il fait une erreur sur le parcours. Hein. Et l'erreur sur le parcours, c'est que Suarez, de fait, n'a pas corrigé entièrement Occam. C'est très important parce que pratiquement toutes les philosophies dites thomistes, aujourd'hui, selon la scolastique, sont presque toujours, je dis presque toujours, parce qu'il faut bien, ut in pluribus, la plupart du temps, sont suarésiennes. Alors c'est intéressant de saisir que ce qu'a fait Suarez à la suite d'Occam, je vais en dire un petit mot, parce que c'est important de le saisir à partir du point de départ de la philosophie. C'est très important de voir ça. Bien, Occam a transformé le jugement d'existence de cette manière. Il y a. Alors à première vue, on dit on suit exactement la même chose. Il y a. Datur, hein, c'est le mot latin, parce qu'il écrit en latin. Datur, c'est le datur. Et c'est ce que nous retrouvons dans la philosophie heideggerienne quand Heidegger dit « es gibt ». Il y a une donnée, il y a quelque chose qui est donné. C'est très curieux de retrouver ça. Et le langage, là, est porteur de quelque chose de très important à bien saisir. Quelle différence y a-t-il entre « ceci est » et « il y a » le datur? Et ça, Kant le dit explicitement quand il commente les sentences. Il dit explicitement que le point de départ de la philosophie, c'est le datum, jugement d'existence. Comment Occam aboutit-il à ça? C'est tout simplement parce qu'il dit que la première chose qui est en moi, c'est intelligo. Vous voyez comment Occam va être le grand-père de Descartes. Descartes n'a rien inventé. Tout vient des théologiens, vous savez, dans notre philosophie occidentale. Tout vient des théologiens. Et quand nous sommes dans la vérité, ça vient alors au-delà des théologiens, à la source de la philosophie, c'est-à-dire aux Grecs. Et c'est très curieux, ça. Toutes les erreurs ont été pensées par les théologiens. Quelquefois la vérité, hein. N'oubliez pas. Mais beaucoup d'erreurs ont été pensées par les théologiens. Et alors, Occam spécialement. C'est pour ça qu'on doit prier pour lui. N'est-ce pas? Alors, ok. Descartes dit cogito. Et Occam dit intelligo. Et bien avant Descartes. Hein. Alors, entre deux, qu'est-ce qu'il y a? Mais bien sûr, là. Parce que Descartes a eu comme professeur des Suarésiens. Il ne faut pas l'oublier. Alors, entre deux, il y a Suarez. Et c'est intéressant de situer les deux comme ça. Et de comprendre un tout petit peu ce qui s'est passé entre les deux. Eh bien, Occam dit que le point de départ de ma philosophie, c'est intelligo. Et il ajoute, il est franciscain, amo Socratem. Vous voyez l'expérience interne, c'est intéressant de voir ça. La grande expérience interne. Je pense, j'intellige. C'est mieux de dire intelligo que cogito. Hein? Et c'est mieux de dire intelligo et amo Socratem. J'aime Socrate. Et alors, Descartes a laissé tomber Amo Socratem. C'est pas étonnant, c'est plus simple. Il est philosophe, il s'est coupé de la foi, il s'est laissé tomber, alors il dit cogito simplement. Tandis que Occam dit intelligo et Amo Socratem. J'intellige des données intelligibles. La première chose que j'intellige, c'est des données intelligibles. Ces données intelligibles existent-elles ou n'existent pas? Le problème de Descartes. Je pars des idées. Descartes des idées. Ici, il dit les premiers intelligibles. C'est la même chose. Les premières intelligibles, c'est les idées. Comment je vais rejoindre la réalité? Quelle distance y a-t-il entre intelligo et l'affirmation il y a? Ceci existe. Ceci existe. Ceci est une donnée. Ceci est donné. C'est par la sensation. Les sensations font le lien entre intelligo et detur. C'est vrai, ça. C'est évident que les sensations viennent s'ajouter à intelligo. Ils viennent s'ajouter, dit Descartes, dit Occam, de l'extérieur. Ça fait le métaxu. L'intermédiaire entre intelligo et datur. Et Occam ajoute, l'intelligence saisit la réalité existante à travers la sensation et elle ne saisit rien de plus de la réalité existante que ce que saisit la sensation. Vous voyez comment va naître le nous-mêmes de Kant. Il faut bien comprendre ça, parce que c'est très très important de saisir que la sensation, quand je sens quelque chose, je sens uniquement les qualités sensibles. Je ne sens pas directement la réalité de la table. Je ne sens pas la table. Je sens les qualités sensibles, rougeuses ou lisses, chaude ou froide, c'est ça que je sens. C'est mon intelligence qui se sert des sensations pour dire la table. Aristote avait déjà dit ça en disant qu'il y a un sensible per accidens que l'intelligence seule saisit. Et l'intelligence seule est capable d'aller au-delà des sensations pour découvrir la réalité sentie. La réalité sentie, c'est justement ce qui est au-delà des sensations. Alors à ce moment-là, mon intelligence, au-delà des sensations, saisit ceci est. Pour Occam, c'est très net, l'intelligence ne saisit de la réalité, c'est-à-dire du donné, que ce que les sensations saisissent. Or, les sensations ne saisissent que les sensibles propres ou les sensibles communs. C'est la seule chose qui saisisse, c'est-à-dire les qualités et d'une certaine manière la quantité. Donc, les sensations ne saisissent que cela. Donc, l'intelligence a un contact avec la réalité. Cette réalité, elle la touche, mais elle ne la saisit pas réellement. Et c'est pour ça que cette réalité, plus simplement dit, elle nous est donnée. Mais je ne la saisis pas. Donc, j'ai a priori, ce que dira Descartes, j'ai a priori un certain sens, certaine signification de cette réalité. Mais cette réalité m'échappe. Je ne la connais pas vraiment. Je la touche, simplement. C'est la sensation qui vient s'ajouter à l'intelligo. L'intelligence est conçue comme extérieure à la sensation. Si l'intelligence est conçue comme extérieure à la sensation, l'intelligence ne pénètre pas mes sensations. Mes sensations sont donc, elles s'ajoutent de l'extérieur et elles ne me permettent pas de saisir la réalité. La réalité reste donc extérieure à mon intelligence. Vous voyez que ça, c'est un moment extrêmement important. C'est un moment très important. C'est pour ça que je cite, c'est Occam, le premier, qui a saisi, qui nous donne cette manière de concevoir le jugement d'existence en disant le datum. Cette réalité nous est donnée, mais nous ne la saisissons pas, nous, simplement nous la constatons. Et c'est l'intelligence qui a l'idée de table et qui dit cette table existe. Mais je ne la connais pas, cette table. C'est simplement une intelligibilité. Alors, il ne nous dit pas d'où ça vient, ça, c'est intelligible. Descartes nous dira les idées innées. Nous avons des idées innées. Descartes a ajouté ça. Et en fond, lui, simplement, dit ça. Il est croyant en Occam. Et c'est en tant que croyant qu'il nous dit ça. Et donc, par la foi, j'ai une vision sur le monde. Par la foi, j'ai une vision sur le monde. Il ne le dit pas non plus, mais au fond, c'est ça qui est sous-jacent. Par la foi, j'ai une vision sur le monde. Donc, grâce à la foi, je peux rejoindre le monde extérieur, parce que ce monde extérieur, il m'est donné. Il m'est donné par Dieu. Vous voyez comment Descartes va rejoindre le monde extérieur, lui aussi, par la vérité divine. Mais Descartes veut mieux séparer le point de vue du monde philosophique du monde de la foi, puisqu'il veut vraiment faire une philosophie qui se sépare de la foi, tandis qu'Occam, c'est en tant que théologien qui dit ça. Et donc, dans sa foi, qui adhère à la réalité créée, j'adhère à la réalité créée parce que je suis croyant, par la foi qui adhère à la réalité créée, Occam montre que mon intelligence est coupée du réel. Et elle rejoint le réel par la sensation. La sensation s'ajoute de l'extérieur. Alors à ce moment-là, le jugement d'existence, ceci est transformé dans le datum. Je ne peux pas dire autre chose. Autrement dit, je ne saisis qu'une seule chose, le ceci. Le ceci, c'est le datum. Je regarde l'exister comme s'ajoutant au ceci. Et c'est le ceci simplement qui m'intéresse. Je ne regarde que cela, c'est la seule chose qui m'intéresse. Je ne vois pas que ce qui m'intéresse, c'est « est ». C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'être ? Si je ne regarde que le datum, la réalité m'est donnée, il n'y a plus d'interrogation sur l'être. Il n'y a plus d'interrogation sur l'être, parce que cette réalité m'est donnée, oui, elle m'est donnée, tout de suite. Mais si elle m'est donnée, je la regarde, c'est tout. Je colle à cette réalité, j'adhère à cette réalité, mais il n'y a plus d'interrogation sur l'être. Il ne peut plus y avoir d'interrogation sur l'être. Alors, comment Suarez va-t-il sauver la métaphysique, puisque Suarez veut sauver la métaphysique? Suarez veut être fidèle à saint Thomas. Suarez dira tout simplement, la métaphysique, elle commence par le concept de l'œuvre. Et vous voyez bien comment Descartes, lui, comprendra le vivre humain. Le concept d'être, le concept d'être qui est fini, et qui est infini. La métaphysique commence par le concept. Alors que nous devons, si nous allons jusqu'au bout du réalisme, dire la philosophie première commence par le jugement d'existence, et non pas le concept d'être. Alors, il faudrait, à partir de là, comprendre la position de Heidegger, qui dit, la métaphysique ne peut pas commencer par le concept d'être. Parce que si la métaphysique commence par le concept d'être, je n'atteins jamais l'être. C'est le concept d'être qui mesure l'être. Et donc, je n'atteins jamais l'être. Il faut donc supprimer le concept d'être. Il n'y a pas de concept d'être. Ça n'existe pas, le concept d'être. Il faut donc regarder l'être dans toute sa pureté. Et regarder l'être dans toute sa pureté, c'est la négation de tous les étants pour penser l'être. Mais comment ? Il y a un lien. Et ça, il faut essayer de saisir. Jugement d'existence aristotélicien, Occam, Suarez, Descartes, Kant, Jenlinger. C'est normal, du reste, c'est un fait normal, on est dépendants les uns des autres. Et puis, la réaction profonde de Heidegger aujourd'hui, qui essaie de repenser l'être.